Bonjour de New York et bienvenue à notre cinquième atelier des créateurs de nouvelles. Nous sommes tellement contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Nicolette Scott et je suis responsable des partenaires stratégiques au sein de l'équipe YouTube News. Je décris les efforts de partenariat américain pour les éditeurs d'actualités numériques de YouTube et je suis ravie d'être de retour parmi vous en tant qu'hôte de la session d'aujourd'hui. Pour les nouveaux venus, il s'agit d'une série d'ateliers destinés aux nouveaux créateurs d'actualités qui débutent sur la plateforme. Et la session d'aujourd'hui sera consacrée aux données d'analyse et aux studios YouTube. Que vous envisagiez de lancer votre propre chaîne ou que vous recherchiez simplement quelques conseils d'initiés, vous êtes au bon endroit. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire bonjour dans la boîte de chat à droite de cette vidéo. L'atelier d'aujourd'hui est le cinquième de notre série de six et porte sur YouTube Studio. YouTube Studio offre aux créateurs un large éventail d'outils et de fonctionnalités pour vous aider à gérer votre chaîne YouTube. De la mise en ligne de votre vidéo à l'analyse des performances de la vidéo et de la chaîne, YouTube Studio couvre tous les aspects. La première partie de l'atelier sera consacrée à une présentation des différents onglets de YouTube Studio et des fonctionnalités qu'ils offrent. Dans la seconde partie, nous plongerons dans le module Analytics, données analytiques, et examinerons certains graphiques et points de données clés qui peuvent vous aider à mieux comprendre les performances de votre chaîne. Et comme toujours, nous terminerons l'atelier par une session de questions-réponses en direct. Alors, n'oubliez pas de poser vos questions dans la boîte de questions-réponses située à droite. Avant de commencer, nous allons poser quelques questions car vous avez eu tellement de questions après notre dernier atelier que nous avons manqué de temps pour y répondre. Mais d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter mon co-présentateur pour l'émission d'aujourd'hui, Abhi Deshpande. Abhi est responsable de la technologie des partenaires chez YouTube et travaille avec un large éventail de partenaires de l'actualité. En dehors de la technologie, Abhi aime chanter, lire et voyager. Il vit actuellement à Jersey City, dans le New Jersey, avec sa femme, Roshni, et son adorable petit Australien, Kiro. Bienvenue, Abhi. Merci, Nicolette, et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour l'atelier d'aujourd'hui. OK, répondons à certaines de ces questions. La première question, c'est une question en fait en deux parties. La première est de savoir comment les partenaires peuvent monétiser les shorts sur les vidéos YouTube et ensuite, quels sont les conseils pour une meilleure croissance d'une chaîne d'infos? Très bonne question. Comme vous l'avez peut-être entendu dire, la monétisation des shorts YouTube commencera en 2023. Pour pouvoir bénéficier de la monétisation des courts des shorts YouTube, votre chaîne doit participer au programme de partenariat YouTube ou YPP, YPP. Nous avons abordé les conditions d'admissibilité au YPP dans l'atelier 4. Nous vous encourageons donc à consulter la vidéo à la demande de l'atelier 4 pour en savoir plus. La deuxième question alors, comment connaître les habitudes des téléspectateurs et cela sera-t-il utile pour la monétisation? Je vais passer cette question à Abhi car il est l'expert de tout ce qui concerne les données analytiques. Encore une excellente question que nous allons aborder en détail aujourd'hui dans la section analytique de l'atelier d'aujourd'hui. Alors, nous verrons comment comparer les performances des vidéos, comprendre quand les spectateurs sont en ligne, identifier les sources de trafic et plus encore. Alors, restez à l'écoute. Merci infiniment, Abhi. Bon, j'espère que ces réponses ont couvert certains des thèmes qui reviennent beaucoup. Continuez à soumettre vos questions dans la boîte de discussion située à droite de la vidéo, car nous y répondrons à la fin de cet atelier aujourd'hui. Et maintenant, passons au sujet principal d'aujourd'hui, YouTube Studio et les données analytiques. Allez-y, Abhi. Génial. Et juste une petite note sur le contenu d'aujourd'hui. Vous remarquerez que les diapos que nous allons parcourir contiennent beaucoup de conseils et d'astuces qui sont mises en évidence. Donc, l'objectif de ce jeu de ces diapos, c'est de servir de document de référence que vous pourrez exploiter plus tard lorsque vous commencerez à utiliser YouTube Studio. Vous pouvez télécharger ces diapos sur la plateforme News Creator. Je vais souligner quelques points clés à retenir de chaque diapo, mais je vous encourage à prendre le temps de les examiner plus en détail après l'atelier. Donc, commençons par le tableau de bord de YouTube Studio. C'est la page d'accueil lorsque vous vous connectez à Studio. Au premier plan, vous verrez un aperçu rapide des points de données clés liés à votre dernier téléchargement pour vous donner une idée de ses performances. Prenez note des points de données tels que les vues, la durée moyenne de visionnage et le temps de visionnage. Sur le côté droit de la page, vous verrez les alertes concernant les problèmes que YouTube peut rencontrer. Et vous remarquerez sur la gauche la liste des onglets au module de YouTube Studio. Nous allons consacrer un peu de temps à certains d'entre eux dans l'atelier de l'aujourd'hui, en nous concentrant notamment sur le module Analytics, données analytiques. Tout d'abord, voyons comment vous pouvez télécharger des vidéos sur YouTube. Dans le coin supérieur droit de la page de destination du studio YouTube, vous verrez l'icône Créer. Cliquez sur l'icône, puis sélectionnez Télécharger la vidéo. Vous pouvez ensuite sélectionner le fichier correspondant sur votre ordinateur. Si vous fermez l'expérience de téléchargement avant d'avoir fini de choisir vos paramètres, votre vidéo sera enregistrée comme un brouillon sur votre page vidéo. L'étape suivante consiste à ajouter des détails sur la vidéo, un bon titre, une description, une vignette. Ici, vous avez la possibilité de choisir l'une des vignettes pré-générées ou de créer la vôtre et de la télécharger. Dans les ateliers précédents, nous avons beaucoup parlé de l'importance d'avoir de bons titres, de bonnes vignettes. Alors, consacrez-y un peu de temps pour vous assurer de donner à votre contenu les meilleures chances d'attirer l'attention de votre public. Et une fois les détails de la vidéo ajoutés, vous êtes également tenu par la loi d'indiquer si le contenu mis en ligne est destiné aux enfants ou non. Si vous êtes inscrit au programme de partenariat YouTube, la cinquième étape consiste à définir vos paramètres publicitaires et activer la monétisation. Ensuite, une fois le traitement de la vidéo terminé, vous pourrez ajouter et modifier les écrans de fin et des cartes à votre vidéo. Enfin, vous choisirez vos paramètres de visibilité, notamment si vous souhaitez ou non programmer votre vidéo pour une date et une heure de diffusion spécifique. Et une fois que vous êtes prêt, il suffit de cliquer sur Publier. Voyons maintenant comment lancer une diffusion en direct. Revenons au bouton Créer, situé dans le coin supérieur droit de la page de renvoi de YouTube Studio. Mais cette fois, juste en dessous de l'option Télécharger la vidéo, vous verrez l'option Go Live. Allez-y en direct. Deux options s'offrent à vous. Vous pouvez soit utiliser votre webcam en direct, soit choisir un logiciel de streaming. Ensuite, comme pour le téléchargement d'une vidéo, vous pouvez indiquer si la diffusion en direct est destinée aux enfants et vérifier les paramètres de restriction d'âge. Ensuite, ajoutez votre titre et votre description pour le streaming en direct. Vous pouvez également programmer votre diffusion pour une date ultérieure. Et si vous êtes un habitué du streaming, vous aurez la possibilité de copier les paramètres de diffusion précédente. L'étape finale consiste à passer en revue tout ce qui se trouve dans le tableau de bord live et à passer au direct. L'onglet Vidéo situé dans la partie gauche du tableau de bord de YouTube Studio vous permet de gérer tout le contenu de votre chaîne en un seul endroit. Vous pouvez également choisir entre les vidéos téléchargées et les vidéos en direct et appliquer divers filtres en fonction d'un grand nombre de paramètres et de mesures. La vue récapitulative vous donne un aperçu des principaux paramètres de chacune de votre vidéo, notamment si la vidéo est disponible publiquement, si la monétisation est activée et s'il y a des restrictions qui lui sont appliquées, y compris les droits d'auteur, restrictions d'âge ou... Vous pouvez également voir le nombre de vues de chaque vidéo et consulter le nombre total de commentaires pour chaque vidéo. En passant la souris sur une vidéo, vous verrez apparaître quatre icônes cliquables qui vous permettront de modifier les détails de la vidéo, d'accéder à des analyses au niveau de la vidéo, d'examiner les commentaires de la vidéo, etc. Si vous cliquez sur l'une de vos vidéos, vous aurez accès à une série de sous-onglets qui vous permettront d'effectuer des changements granulaires au niveau de la vidéo. Vous pourrez mettre à jour les informations relatives aux vidéos, comme les titres, les descriptions, les vignettes, plonger dans l'analyse du niveau de la vidéo, ajouter des écrans d'extrémité, des cartes et des rouleaux intermédiaires, des pubs intermédiaires, examiner les commentaires des vidéos individuelles, examiner les paramètres de monétisation, définir vos politiques d'identification du contenu et examiner les correspondances entre le contenu existant et le contenu futur. Au fur et à mesure que vous augmentez votre contenu, pensez à adopter une approche cohérente pour définir ces paramètres sous-jacents afin de créer une apparence cohérente sur vos chaînes et rationaliser le processus opérationnel de gestion de votre vidéothèque. Les commentaires constituent un excellent moyen de dialoguer à votre public et de recueillir ses réactions. Mais à mesure que votre chaîne prend de l'ampleur, vous avez besoin d'outils pour vous aider à gérer cet engagement et vous assurer qu'il est utile. Et c'est là que l'onglet commentaires du studio YouTube entre en jeu. L'onglet commentaires vous permet de sélectionner chacune de vos vidéos et d'en avoir un aperçu. D'avoir un aperçu de tous les commentaires du public, les commentaires soumis à l'examen des règles que vous avez définies. Par exemple, vous pouvez définir une liste de mots bloqués pour éviter que les utilisateurs ne publient des commentaires grossiers ou offensants et les commentaires susceptibles d'être des spams. Il s'agit de commentaires que nos systèmes ont automatiquement identifiés et bloqués. Vous pouvez également utiliser la fonction filtre pour trier les commentaires en fonction de divers critères, notamment le statut d'abonné ou le fait que vous ayez déjà répondu aux commentaires. Vous pouvez modifier les paramètres des commentaires en cliquant sur la tuile des paramètres, puis en sélectionnant Communauté dans le sous-menu. Vous pourrez y consulter les paramètres par défaut des commentaires, définir les mots et les utilisateurs bloqués, ajouter des modérateurs de chaîne et activer ou désactiver les commentaires sur l'ensemble de votre chaîne. Maintenant, examinons l'onglet sous-titres. Lorsque vous chargez une vidéo, vous pouvez également charger les sous-titres pour chaque vidéo via l'onglet sous-titres. Passez en revue les brouillons de sous-titres via le filtre brouillon et publiez-les pour les mettre en ligne. Le filtre communauté vous permet d'afficher les sous-titres proposés par les fans que vous pouvez alors revoir et accepter. Vous pouvez activer les sous-titres fournis par la communauté en cliquant sur l'icône en forme d'engrenage dans le coin supérieur droit de l'écran. Si vous pouvez bénéficier de notre outil de comparaison des droits d'auteur, vous verrez l'onglet droits d'auteur dans la partie gauche de l'interface de YouTube Studio. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un fait une demande de suppression, une de demande légale? Si il y a une demande, sélectionnez l'onglet droits d'auteur et sur le prochain écran, vous trouvez plus de détails sur le problème de droit d'auteur, l'enfreinte de droit d'auteur en direct. Et ça comprendra, plus en bas sur l'écran, vous verrez un clip qui vous montrera la plainte et pourquoi elle a été placée et le type de plainte à laquelle ça correspond. Ici, vous pourrez prendre les actions, faire une réponse, comme par exemple recevoir, supprimer la vidéo. Parlons maintenant de monétisation. Pour les créateurs qui ne sont pas encore éligibles pour le programme YPP, vous verrez un message comme celui que vous voyez à l'écran avec les critères d'éligibilité qui doivent être remplis pour rejoindre le programme. Pour résumer le dernier atelier, pour y adhérer, votre chaîne doit remplir ses conditions minimales d'éligibilité. Vous devez avoir au moins 1 000 abonnés et avoir au moins 4 000 heures de visualisation au cours des 12 derniers mois, soit 10 millions de vues publiques valides de Shorts au cours des 90 derniers jours. Pour les créateurs qui font partie du programme de partenariat YouTube ou YPP, l'onglet monétisation est l'endroit où vous gérerez les paramètres de monétisation de votre chaîne. Vous pourrez non seulement configurer la monétisation des publicités, mais aussi les adhésions à la chaîne et les autres fonctions de monétisation proposées par YouTube. Voyons comment mettre en place la monétisation des publicités.
Tout d'abord, vous avez la possibilité de sélectionner le type de publicité que vous souhaitez utiliser et si vous voulez que la publicité soit diffusée avant, pendant ou après la vidéo. Une fois votre sélection terminée, vous pouvez décider d'ajouter manuellement ou automatiquement les mid-rolls. Sur la page de détails de la vidéo, sélectionnez l'onglet de monétisation et en dessous, cliquez sur le lien hypertexte placé manuellement. Cela ouvrira l'éditeur de studio où vous pourrez apporter des modifications spécifiques à vos mid-rolls. Lorsque vous modifiez le placement de vos pubs au milieu de votre vidéo, vous pouvez soit entrer les codes temporels spécifiques au nom de la page, soit utiliser la ligne de temps ci-dessous. Voilà pour les principaux onglets de YouTube Studio. Avant de terminer cette partie de l'atelier et d'aborder YouTube Analytics, jetons un coup d'œil rapide à certains paramètres macro que vous pouvez configurer sur votre chaîne. Pour accéder aux paramètres de votre chaîne, commencez par chercher l'icône d'engrenage en bas à gauche de l'écran. En cliquant dessus, vous ouvrirez le sous-menu Paramètres. En naviguant dans le sous-menu, vous pouvez sélectionner la devise par défaut de votre chaîne, lier votre compte AdSense, modifier les balises de la chaîne, ajouter d'autres utilisateurs pour aider à gérer votre chaîne et configurer les fonctions communautaires, y compris les listes de mots-clés. Le menu des paramètres comporte de nombreuses fonctions. Prenez donc le temps de vous familiariser avec celles-ci après l'atelier. Pour finir, un paramètre clé que j'aimerais souligner. Comment indiquer que votre chaîne est faite pour les enfants? Comme vous l'avez entendu dans les ateliers précédents, YouTube s'engage à respecter ses principes de responsabilité et à créer une plateforme responsable pour tous les utilisateurs. Pour ce faire, il est essentiel de veiller à ce que notre plateforme soit sûre pour les enfants. Dans le sous-menu chaîne de la page paramètres, vous pouvez spécifier que votre contenu est destiné aux enfants au niveau de la chaîne dans son ensemble. Vous pouvez également choisir de le faire au niveau de chaque vidéo. Si vous choisissez cette option, vous devrez examiner et identifier chaque vidéo téléchargée sur votre chaîne. Voilà, cela nous amène à la fin de la première partie de notre atelier. Passons maintenant à YouTube Analytics. Récapitulons rapidement certains des concepts analytiques des ateliers précédents. L'onglet aperçu vous donne un aperçu des principales mesures de votre chaîne. Vous y verrez le nombre total de vues, le temps de visionnage total et l'évolution du nombre d'abonnés. En cliquant sur chacune de ces mesures, vous obtenez un graphique qui vous aide à identifier les tendances sur une période plus longue. Les onglets situés en haut de la page présentent des dimensions supplémentaires de données qui vous aident à comprendre l'étendue de votre audience, le degré d'engagement de vos spectateurs vis-à-vis de votre contenu et le montant des revenus générés par votre chaîne, si celle-ci participe au programme de partenariat YouTube. Le mode avancé peut vous aider à obtenir des informations plus approfondies en comparant plusieurs mesures entre elles, en utilisant des groupes ou des filtres spécifiques. Envisagez d'utiliser le mode avancé lorsque vous cherchez à obtenir des informations exploitables sur les performances des séries ou des vidéos. Un bon exemple d'utilisation du mode avancé pourrait être la création de groupes pour des séries ou des séries spécifiques et observer lesquels ont un CTR ou un taux d'impression à un nombre de vues élevé. OK, alors regardons de plus près certaines d'entre elles, les caractéristiques. Les cartes de perception de l'audience sont l'un des nouveaux outils que nous avons ajoutés pour faciliter la compréhension des performances de vidéos et de chaînes. Les fiches d'audience sont un excellent moyen de savoir ce que votre public regarde sur YouTube et qui peut vous aider à mettre en place des expériences pour affiner votre stratégie de contenu au fil du temps. Les informations qui peuvent être utiles sont les autres chaînes que votre public regarde. Celui-ci est explicite. Vous pouvez voir ici les autres créateurs et chaînes que vos spectateurs regardent et avec lesquels ils s'engagent. Les résultats sont classés en fonction du nombre de spectateurs qui ont regardé les deux chaînes régulièrement au cours des 28 derniers jours. Autres vidéos que votre public a regardées. Cette option vous montre les vidéos d'autres chaînes que votre public a récemment regardées. Les résultats sont classés par le nombre de vos spectateurs qui ont regardé ces vidéos au cours des 7 derniers jours. Vous pouvez aussi voir les vidéos que les gens cherchent. Vous pouvez trouver ici les principales recherches liées à votre chaîne où les gens ont trouvé le contenu insatisfaisant, périmé ou indisponible. Ces trois cartes permettent d'obtenir des informations sur le type de contenu qui intéresse vos spectateurs. Utilisez-le pour trouver de nouvelles idées de vidéos ou pour comprendre les tendances en matière de performance sur votre propre chaîne. Prenez le temps d'examiner le contenu que d'autres créateurs produisent et voyez ce qui résonne avec votre public. N'oubliez pas qu'il est également important de vous assurer que vous travaillez sur un contenu qui vous intéresse en tant que créateur. Il s'agit d'un long parcours qui vous demandera un investissement important en temps et en énergie. Il est donc important de rester fidèle à votre mission afin de vous sentir stimulé par votre travail. Cette carte d'audience, qui se trouve également dans l'onglet Audience d'Analytics, vous permet de savoir comment vos spectateurs sont sur YouTube. Pensez à utiliser cette information pour programmer les événements en direct ou des premières. Une chose importante à noter est que le temps de publication n'est pas connu pour affecter directement la performance de la vidéo au long terme. Même si cet outil est incroyablement utile pour programmer des événements en direct ou des premières, il n'est pas nécessaire si c'est de s'y intéresser de trop près pour vous télécharger, pour vos téléchargements de vidéos habituels. Maintenant que nous avons examiné les tendances des données macro, examinons les analyses au niveau de la vidéo. Une fois que vous êtes sur la page d'analyse, naviguez vers le mode avancé dans le coin supérieur droit. De là, vous verrez cet écran qui montre comment le contenu vidéo se comporte au fil du temps. En cliquant sur le bouton Comparer, vous pourrez comparer plusieurs vidéos de votre bibliothèque. Comme le montrent ces graphiques, il arrive que les vidéos connaissent un pic de temps de visionnage longtemps après leur chargement initial. C'est une bonne idée de jeter un coup d'œil à certains de ces pics de temps de visionnage pour essayer de comprendre ce qui a pu les provoquer. Cela peut être particulièrement important pour les créateurs d'actualité. Lorsque des sujets d'actualité réapparaissent, vous pouvez constater un regain d'intérêt pour votre contenu. Prenez le temps de comprendre ces tendances afin de pouvoir réfléchir à votre stratégie de contenu et à la manière dont le contenu permanent peut contribuer à augmenter le temps d'écoute de votre chaîne. En plus de la tendance à long terme, vous pouvez également zoomer sur les performances de 24 premières heures. Il s'agit d'un outil qui vous permet d'avoir une idée des performances de votre contenu dans les premières 24 heures suivantes à sa mise en ligne. Le tableau rassemble les vidéos les plus performantes et les moins performantes, ce qui vous permet de déterminer ce qui trouve un écho auprès de votre public. Cet outil vous donne la possibilité de modifier la chronologie de la comparaison et d'ajouter des mesures supplémentaires qui vous aideront à mieux comprendre la portée et l'engagement de votre public. Vous pouvez exploiter cet ensemble de graphiques pour n'importe quelle vidéo à partir de 2019, mais il vous limite à l'affichage de 100 vidéos à la fin fois. Ici, vous avez la possibilité de choisir la période depuis la publication que vous souhaitez analyser, soit les 24 premières heures, les 7 premiers jours ou soit les 28 premières heures, jours. La période que vous choisissez doit dépendre du type de contenu que vous produisez et des informations que vous essayez d'obtenir. Par exemple, si votre chaîne produit généralement du contenu à caractère permanent ou atemporel qui reçoit un grand volume de trafic suggéré, vous voudrez peut-être vous concentrer davantage sur les 7 ou 28 premiers jours. En revanche, si vous créez du contenu autour d'événements tendance et que vous voyez généralement la plupart de vos vidéos le premier jour ou que vous vous souciez beaucoup des performances du premier jour, vous pouvez utiliser les performances des 24 premières heures. Ce qui rend ce rapport si efficace, c'est qu'il vous montre les performances de vos vidéos sur exactement la même période. Ainsi, au lieu de comparer une vidéo qui est en ligne depuis 3 mois et une autre que vous venez de publier, vous pouvez maintenant examiner toutes les vidéos au cours de la même période de leur durée de vie. Une fois que vous avez choisi votre période de publication, vous pouvez maintenant choisir les paramètres que vous souhaitez comparer à nouveau, qu'il s'agisse de vues, d'impressions, de CTR. Et si vous faites défiler vers le bas, vous verrez une liste de vidéos les plus performantes et les moins performantes en fonction de cette mesure. Comme nous l'avons abordé dans les ateliers précédents, la conception des vignettes pour améliorer le taux de clic est un élément important de l'optimisation des performances de votre chaîne. Les écrans de performance vidéo sur 24 heures que nous avons vus précédemment peuvent vous aider à commencer ce voyage. En regardant les graphiques en points, au lieu de regarder uniquement les impressions, nous allons trier par taux de clic d'impression. Le CTR est une mesure utile pour évaluer la présentation des vidéos, y compris les vignettes, le titre et l'intérêt lié à vos vidéos. Une fois que vous avez accédé à la comparaison sur 24 heures, 7 jours ou 28 jours, nous pouvons commencer à en tirer des enseignements. Regardez d'abord vos vidéos les moins performantes et les plus performantes. Remarquez-vous des thèmes ou des différences de style entre les vignettes? Certaines stratégies de titrage sont-elles plus performantes que d'autres? Votre présentation reflète-t-il fidèlement le contenu de la vidéo? Dans notre exemple, nous pouvons voir que les vignettes claires avec moins de texte semblent avoir de meilleures performances, tandis que les vidéos avec des titres très longs et des vignettes encombrées n'ont pas un CTR aussi élevé. Si la stratégie de présentation est un facteur clé pour le CTR, n'oubliez pas de prendre en compte le sujet même de la vidéo. Pour revenir à la page d'accueil de l'onglet Analyse, je tiens également à souligner que l'option Première 24 heures est disponible pour l'analyse des performances de chaque vidéo. La raison pour laquelle nous avons ajouté cet élément n'est pas que les premières 24 heures sont importantes pour notre système de recommandation. ce n'est pas important. Mais les premières 24 heures ne sont pas toujours indicatives des performances futures d'une vidéo, parce que les vidéos peuvent avoir des résultats incroyables pendant des semaines, voire des années après leur diffusion. La raison pour laquelle nous avons ajouté cette option est que les premières 24 heures sont généralement le moment où les créateurs veulent comparer les performances des vidéos. Cette option vous permet de vous plonger dans une seule vidéo ou même de comparer plusieurs vidéos entre elles au même stade de leur durée de vie. Voici un exemple d'utilisation des premières 24 heures pour comparer des vidéos similaires du point de vue du sujet. Nous pouvons voir ici où les deux vidéos différentes en termes de vues sur 24 heures, d'AVD, d'abonnés, etc. Lorsque vous décidez d'utiliser ou non la comparaison au niveau de la chaîne ou de la vidéo, prenez en considération les informations que vous cherchez à obtenir. Si vous essayez de voir spécifiquement pourquoi une vidéo est moins performante, il peut être préférable de la comparer directement à des vidéos de thèmes, de formats ou de séries similaires. Si vous cherchez à dégager des tendances plus larges sur le contenu qui fonctionne ou ne fonctionne pas pour la chaîne en termes de CTR, AVD, etc., la vue au niveau de la chaîne peut mieux répondre à vos besoins. Lorsque vous examinez les performances de chaque vidéo, vous pouvez également souhaiter mieux comprendre où vos spectateurs trouvent votre contenu. Les données disponibles dans l'onglet Source de trafic montrent les différents endroits où votre contenu est présenté aux spectateurs. Notamment, les vidéos suggérées sont présentées aux spectateurs sur le côté droit de la page de surveillance, sur la rubrique suivante, sur la vidéo sur l'application mobile et comme la prochaine vidéo en lecture automatique. Considérez ceci comme votre source de trafic du grand public et consultez le nombre d'impressions servies, les CTR et la durée moyenne pour mesurer les performances de votre contenu auprès de ce public. Pour en savoir plus, cliquez sur Vidéos suggérées pour obtenir un classement détaillé des vidéos individuelles qui génèrent du trafic suggéré. Les fonctionnalités de navigation font référence au trafic généré par les flux d'accueil, des tendances et des abonnements. Pour une analyse plus approfondie, il est recommandé de cliquer et de séparer le trafic du flux d'accueil généré par la page d'accueil que les internautes voient en arrivant sur YouTube du flux d'abonnement représentant le contenu surveillé à vos abonnés dans le flux d'abonnement. YouTube Search examine les requêtes de recherche, c'est-à-dire ceux qui sont fournis par le navigateur ou le lecteur de l'utilisateur qui ont dirigé les spectateurs vers votre contenu. Cela peut vous donner des indications sur les choses comme le titrage, les formats populaires et la familiarité du public avec votre nom ou votre marque. Par exemple, une chaîne peut remarquer qu'un nombre significativement plus élevé de spectateurs arrive sur la chaîne en recherchant le titre d'un format populaire, par exemple Meme Review, plutôt qu'en cherchant le nom de la chaîne elle-même. Cela indiquerait une grande affinité des téléspectateurs pour le format et pourra encourager la chaîne à faire de ce format une partie plus importante du contenu global de la chaîne. Finalement, les notifications sont des alertes envoyées lorsqu'une nouvelle vidéo est rendue publique. Elles peuvent être envoyées par les alertes push mobile ou des courriels. Elles ont tendance à donner un coup de fou au trafic vers vos nouvelles mises en ligne, mais ne constituent pas nécessairement le gros du trafic. Par défaut, YouTube n'envoie que des notifications occasionnelles pour les chaînes que vous regardez souvent ou pour celles auxquelles vous êtes abonné. Si les abonnés souhaitent recevoir des notifications chaque fois que vous publiez une nouvelle vidéo, ils peuvent appuyer sur l'icône en forme de cloche située aux côtés du bouton Abonner. À titre d'exercice, pensez à comparer les données présentées sur cette source avec les données des vidéos suggérées. Cela vous donnera une idée des performances de votre contenu auprès des publics occasionnels et des publics abonnés. Et si vous cliquez sur chacun d'eux, vous donnera une idée du contenu le plus attrayant.
À partir de la page d'accueil de YouTube Analytics, vous pouvez également examiner rapidement les performances de votre dernière mise en ligne en cliquant sur la dernière vidéo à droite de l'écran. En cliquant sur une vidéo individuelle, vous accéderez à une analyse détaillée des performances. D'abord, vous pourrez voir les comparaisons normalisées. Les indicateurs tels que le temps de visionnage, les vues peuvent être visualisés sous forme de graphique avec une comparaison supplémentaire avec les performances de vos vidéos précédentes. Dans l'exemple à l'écran, notez comment la ligne bleue qui indique les performances de cette vidéo se situe à l'extrémité inférieure du segment gris, ce qui indique des performances inférieures à la moyenne par rapport aux vidéos précédentes. Utilisez cette visualisation pour suivre le succès des vidéos individuelles par rapport à la moyenne de votre chaîne et veillez à analyser les succès ou les échecs marquants du point de vue du contenu et des métadonnées. Ensuite, la rétention de l'audience concerne la capacité de votre vidéo à maintenir l'attention du public tout au long de sa durée de vie. Directement lié à la durée moyenne de visualisation, ce graphique vous indiquera le pourcentage de spectateurs qui regardent encore la vidéo à chaque seconde. Analysez ce graphique pour repérer les pics et les creux importants et mettez-les en relation avec le contenu. Une baisse soudaine de l'attention du spectateur peut indiquer que quelque chose se produit dans le contenu à ce moment-là qui conduit les spectateurs à abandonner la vidéo. Alors qu'à l'inverse, des pics soudains au milieu d'une vidéo peuvent indiquer que les spectateurs rejouent certaines sections de la vidéo. Prochaine étape, la rétention d'audience relative. Comme pour la rétention d'audience, l'option relative vous permet de comparer votre vidéo à des vidéos YouTube similaires. La rétention d'audience relative montre la capacité d'une vidéo à conserver ses spectateurs par rapport à toutes les vidéos YouTube de même durée. Lorsque le graphique est plus élevé, ça indique le nombre de spectateurs qui ont continué à regarder votre vidéo pendant cette période par rapport à la même période dans d'autres vidéos YouTube. Enfin, vous pouvez voir l'activité en temps réel qui vous donnera une estimation de la performance de la vidéo sur une poignée de mesures de performance vidéo comme les vues et les sources de trafic. Bien que cela puisse être utile immédiatement après le lancement d'une vidéo, veuillez noter qu'il y a quelques minutes de latence entre l'apparition d'une vue et son affichage dans le rapport. Pour obtenir les informations les plus précises, nous vous recommandons de toujours consulter les données analytiques plus approfondies dès qu'elles sont disponibles dans le premier rapport sous 48 à 72 heures. Utilisez ce rapport pour 1. Vérifier les performances de la dernière vidéo et 2. Enquêter sur les vidéos passées qui n'ont pas donné satisfaction. Ok, alors que nous allons terminer le module d'analyse, terminons par quelques conseils généraux sur la façon d'analyser la performance globale de votre chaîne. Nous avons passé en revue les différents outils de YouTube Analytics et vous vous demandez peut-être comment les utiliser pour diagnostiquer les performances de votre chaîne. Avec tout rapport d'analyse, vous voudrez faire plusieurs choses. D'abord, faire un tri approprié. Triez vos vidéos en cliquant sur chacun des points de données fournis et utilisez-les pour classer les vidéos en fonction de différents critères. Par exemple, le tri par impression peut vous donner une idée des vidéos qui ont le plus grand nombre de visiteurs. Alors que le tri par durée moyenne d'affichage peut être une bonne idée si vous recherchez le contenu qui retient le mieux l'attention des spectateurs. Ensuite, recherchez des modèles. En triant les différents points de données et en examinant les différents rapports, soyez à l'affût de modèles et de similitudes dans le contenu. Vos vidéos les plus vues sont-elles toutes liées par un thème central? Les vidéos ayant le taux de clic le plus élevé ont-elles des éléments communs dans leurs vignettes et leurs titres? Et prenez le bon avec le mauvais. S'il est important d'examiner vos plus grands succès, il peut être tout aussi utile d'analyser certaines de vos vidéos les moins réussies pour identifier les stratégies, le contenu et les thèmes que vous devriez modifier ou éviter à l'avenir. Enfin, utilisez plusieurs rapports pour avoir une vue d'ensemble. Il n'y a pas un seul rapport ou une seule mesure qui soit la plus importante. Habituez-vous à utiliser plusieurs rapports pour obtenir des informations. L'examen de différents indicateurs et de leurs performances vous aidera à mieux comprendre les performances de votre contenu. Alors, nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, soumettez vos questions sur le côté droit de la vidéo. Dans chaque atelier, nous vous lançons un défi, un peu comme des devoirs à la maison, mais sauf que vous n'êtes pas noté. Vous pouvez le faire vous-même pour tester et explorer ce qui a été abordé dans chaque atelier. Votre dernier défi consiste à vous entraîner à utiliser les tables de comparaison de vidéos dans YouTube Studio pour déterminer laquelle de vos vidéos a le mieux fonctionné. Merci infiniment, Abby. C'était vraiment génial. très utile. J'ai appris quelque chose moi-même. Génial. Donc, un thème vraiment, vraiment important. OK, il est maintenant temps pour nous de répondre aux questions que vous avez posées dans la boîte de discussion. Voyons cela. La première question, c'est comment est-ce que je peux mieux comprendre l'engagement des spectateurs avec mon contenu? Est-ce que vous avez des suggestions? D'abord, excellente question. Vous savez, comme on vient de le dire, il y a tellement de différents rapports et graphiques, ça peut être un petit peu, ça fait un peu peur, ou ça peut être un peu de savoir lequel utiliser selon les scénarios. Donc, quand je pense à l'engagement des spectateurs, il y a plusieurs mesures qui me viennent. D'abord, c'est la durée moyenne de visionnage, parce que ça montre vraiment quelles vidéos sont vues au fil du temps. Ça nous donne un peu plus de compréhension au niveau de, bon, si cette vidéo a une longue durée de vue moyenne de visionnage, ça veut dire qu'elles maintiennent l'engagement des spectateurs. Je regarde aussi au pourcentage de rétention de l'audience, et ça, c'est vraiment central, ce graphique. Ça vous aide à comprendre où dans vos vidéos l'audience fait des pics et aussi où vous les perdez un peu. Et donc, si vous commencez à comprendre pourquoi vos spectateurs font des pics ou vous lâchent, ça vous donne des idées au type de contenu qui produit ces résultats. Donc, vous pouvez commencer à penser à ça peut donc intégrer ça à votre stratégie pour vos contenus futurs. Donc, il y a d'autres choses que vous pouvez regarder comme les vues, les impressions, pour vous donner une idée voilà, c'est les vidéos que mes spectateurs regardent beaucoup. Mais une des choses que j'ai mentionnées, et c'est vraiment bien d'approfondir, c'est quel type de contenu attire et engage vraiment votre public. Voilà. Vraiment. Prochaine question. Quel pourcentage de taux de clic est bon pour les vignettes? C'est une très bonne question, n'est-ce pas? On me la pose beaucoup, les partenaires me la posent beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses en termes de taux de clic? Encore une fois, excellente question, mais le truc avec le taux de clic, c'est qu'il n'y a pas un chiffre magique qui marche sur toute la plateforme, mais qui dit, OK, il faut avoir un taux de clic de temps pour que ce soit bien. Non, ça dépend vraiment du type de contenu que vous créez parce que différents types de contenus ont différents seuils d'engagement sur la plateforme. Donc, la meilleure façon de comparer ou de mesurer ce taux de clic, c'est de regarder des vidéos similaires et ou avec leur performance sur différentes chaînes pour avoir une meilleure idée de la norme, du standard du taux de clic pour ce type de contenu. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un taux de clic magique. Mais si on regarde plus profondément à d'autres chaînes, vous pouvez voir à quoi ressemble le taux de clic sur ces chaînes. Et si votre taux de clic n'est pas à la même hauteur, ça peut peut-être vous indiquer que vous avez besoin de vous améliorer. Ouais, très bonne suggestion. Quand on commence, pour ceux qui commencent, regardez les chaînes que vous admirez, regardez leur taux de clic et essayez de les émuler, de voir ce qu'ils font avec leur stratégie. C'est pour ça que les données d'analyse YouTube sont vraiment cruciales. Ouais, prendre cette approche inverse. Cette chaîne a un taux de clic génial, contenu similaire au mien. Donc, peut-être analyser ce que fait cette chaîne de différent avec ses titres, ses vignettes. Donc, c'est là que ce serait bien de faire un peu de recherche pour voir comment s'améliorer. OK, prochaine question. C'en est une qu'on me pose tout le temps. Et je sais qu'il y a un peu des idées fausses qui circulent. Est-ce que c'est important l'heure à laquelle je publie mes shorts? Parce qu'on m'a dit que ça n'a pas vraiment d'importance, l'heure et le jour à laquelle je les publie. À quelle heure de la journée je dois télécharger ma vidéo? Est-ce que ça a un impact sur si ma vidéo elle va être bien recommandée ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, Abby? Ouais, question chargée, c'est sûr. Laisse-moi parler d'abord de la fin de la question, cette idée de est-ce que c'est important l'heure du jour à laquelle je publie ma vidéo? Alors, en fait, YouTube a une manière très sophistiquée de décider comment faire correspondre le public et les contenus. Donc, l'heure de la journée à laquelle une vidéo est publiée, en fait, a très peu d'impact sur cette fonctionnalité finale. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez les vidéos que vous publiez sur la plateforme, il vaut mieux viser quelque chose, voire une vision sur la durée de vie totale de cette vidéo, que vous téléchargez cette vidéo à 10 heures du matin ou 8 heures ou 20 heures. Ce qui compte, c'est que cette vidéo a le contenu qui est engageant pour le public que vous recherchez et à ce moment-là, la vidéo arrivera devant les yeux de ce public le temps voulu. Ça peut être 24 heures plus tard, 72 heures plus tard ou peut-être des semaines plus tard. Ça dépend vraiment du contenu lui-même et du public. Donc, je mettrai moins d'emphase sur l'heure de téléchargement des vidéos. Enfin, bien sûr, la différence, c'est que les diffusions en direct et les premières, c'est différent, bien sûr. Pour les live streams, pour les directs, c'est si vous visez un public spécifique, il faut à ce moment-là que vous visiez l'heure à laquelle ce public va être en ligne, évidemment, pour ce type, pendant ces horaires plus spécifiques. Ouais, l'autre chose aussi, surtout pour les nouvelles, les dernières infos, là, il y a différentes mesures pour les toutes dernières nouvelles, l'heure du jour peut avoir un impact sur l'heure à laquelle les gens recherchent ces nouvelles et ces infos. Et je pense que tout ça, on en a déjà beaucoup parlé dans les ateliers précédents avec beaucoup d'excellentes recommandations, avec les titres excellents, des mots-clés, les vignettes. Ouais, c'est sûr. Et aussi pour continuer là-dessus, si vous avez un contenu que vous sentez qu'il y a un contenu urgent, d'une nature urgente, évidemment, c'est important de le télécharger le plus vite possible. Alors, vraiment, très bonne idée ici. Ouais. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus du taux de clic et est-ce qu'on peut parler des données d'analyse à ce moment-là?
Le taux, c'est ce qu'on appelle le click-through rate en anglais. C'est un indicateur de combien de fois les gens cliquent sur votre vidéo quand ils voient la possibilité de le voir. Donc, quand les utilisés sont pour la plateforme, ils voient peut-être les vignettes sur votre vidéo, ils sont peut-être sur la page d'accueil, ils ont la possibilité de cliquer sur la vidéo. Tout ce sont des opportunités pour que les utilisateurs de cliquer et commencer à regarder la vidéo. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais « click-through rate ». Comptabilise la quantité de fois qu'on a cliqué là-dessus, c'est-à-dire combien de fois la vidéo a eu vraiment l'option, la opportunité d'être cliquée dessus. En YouTube Analytics, nous avons aussi vous pouvez le voir de façon géographique, par région et par pays. L'information par ville n'est pas toujours disponible. Mais je crois qu'on peut vous partager plus d'informations avec vous sur une disponibilité spécifique dans YouTube Analytics dans certains cas. Mais en général, vous pouvez arriver jusqu'au niveau du pays pour avoir l'information catégorisée par géographiquement. Super. Bon, la prochaine question est en fait sur le Reels. Moi, ça fait à peu près 5 semaines que j'ai fait de Reels. Est-ce que nous pouvons mettre 2 Reels sur la même chaîne ou les télécharger et les publier à un point dans le temps plus en avance? Voilà, le Reels, si vous le considérez comme presque comme si c'était une catégorie différente de vidéos que vous publiez sur votre chaîne, vous pouvez évidemment le considérer comme être disponible de le télécharger ou de le publier à une date au futur. Ça dépend de vous comment le mettre à disposition et ou le publier. Je sais qu'il y a une deuxième partie pour la question, mais je m'en souviens pas vraiment. Qu'est-ce que c'était la deuxième partie? Je ne sais pas si j'arrive à, je peux arriver à la voir. Bon, en fait, on va revenir sur la deuxième partie de la question. C'est une question un peu plus longue, donc je crois que j'ai oublié la deuxième partie de la question. Nous avons le temps pour répondre encore à une question. La prochaine question est sur Instagram et comment eux, ils évitent qu'il y ait des vidéos créées sur d'autres réseaux sociaux soient publiées sur eux. Est-ce qu'on peut créer des vidéos et utiliser les mêmes vidéos sur différentes plateformes? C'est très important. Est-ce que YouTube ne donne pas la même priorité à des vidéos qui ont été créées sur un autre réseau social, une plateforme? Bon, je crois, est-ce que vous voulez comprendre un peu plus sur algorithme? J'ai une idée sur ça aussi, mais voilà, je te laisserai répondre d'abord. Vous devez toujours tenir en compte que quand vous téléchargez quelque chose sur YouTube, c'est soit une vidéo spécifique comme un short, la meilleure chose est de la télécharger sans avoir la filigrane d'une autre plateforme. Parce que cela nous montre que c'est un contenu premium que vous êtes en train de télécharger sur la plateforme de Shorts de YouTube. Donc, ma suggestion serait d'éviter d'avoir des Shorts avec une filigrane que vous téléchargez sur la plateforme, mais quelle est ton opinion? Nous recommandons toujours, hein, si vous avez du contenu, vous devrez définitivement le publier sur YouTube. On n'enlève pas la priorité là-dessus du contenu s'il a été créé spécifiquement sur une autre plateforme. Il s'agit vraiment de la filigrane. Nous encourageons nos partenaires de profiter des actifs qui ont créé pour d'autres plateformes, de les publier sur YouTube aussi. Mais il est très important que vous essayiez de faire sentir l'audience que vous avez créé vraiment le contenu pour YouTube. Donc, si vous participez du YPP, du projet de partenariat de YouTube et la monétisation, je crois que ça, c'est aussi un point important à tenir en compte, définitivement. Voilà, et je crois que nous pouvons maintenant revenir très vite sur l'autre question qu'on n'avait pas répondu sur le Reels. La question était si on pouvait publier un même Reels sur deux chaînes différentes qu'on gère. Oui, évidemment, c'est tout à fait possible de le faire parce que nous sommes en train de considérer ces vidéos comme des vidéos que vous êtes en train de télécharger sur votre plateforme. Vous pouvez publier le même contenu sur deux chaînes différentes. Selon comment vous gérez la chaîne, vous devrez peut-être réfléchir à leur donner des titres différents ou des choses de cette nature, mais vous êtes tout à fait capable de charger le même contenu en contenu similaire. Ce que je veux mentionner, vous devrez peut-être réfléchir pourquoi vous voulez faire ça. Est-ce que vous avez deux publics différents sur chaque chaîne et si c'est le cas, est-ce que vous voulez vraiment partager le même reel, les mêmes informations? Et il faut définitivement comprendre le pourquoi, la stratégie et la règle générale que nous avons chez YouTube, c'est vraiment réfléchir à l'audience d'abord, donc avant de créer une deuxième chaîne ou de commencer à publier des différentes variations de la même vidéo. Pensez à votre audience. Qui regarde votre chaîne? Qui est abonné à votre chaîne? Et parfois, et ça représente beaucoup plus de travail de poster la même vidéo sur plusieurs chaînes. Donc, pensez toujours à l'audience. Tout à fait d'accord, au public. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui et pour les questions qu'on avait le temps de répondre. Ça a été vraiment un plaisir absolu de passer ce temps avec vous tous et j'espère que la séance d'aujourd'hui vous a été utile. Pour notre dernière séance, dans 2 semaines, nous aurons des invités très spéciaux qui se joindront à nous pour une discussion au coin de feu et des questions-réponses. Alors n'oubliez pas de marquer vos calendriers pour le mercredi 14 décembre. Vous ne voudrez pas le manquer. Et une dernière chose, répondez s'il vous plaît à notre enquête pour nous en dire plus sur la façon dont vous avez apprécié cette séance. Cela devrait vous prendre environ 2 minutes et vous pouvez le trouver dans le panneau d'engagement à droite ou dans le panneau d'engagement à gauche. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Abby, c'était un plaisir de t'avoir ici. Nous espérons vous voir dans 2 semaines pour la dernière séance. À bientôt. Au revoir.